Sarah, bonsoir, good evening. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland. Alors ce soir, on a plein de monde dans le studio, on a presque pas assez de chaises. Donc il y a Victor à la technique. Victor, tu nous dis bonsoir.
Coucou.
Voilà, c'était Victor. Il y a Virginie qui apprend la technique avec Victor.
Et bonsoir à tous.
Donc ils sont deux là. On a Anatole, très loin, on n'est pas sûr s'il va parler.
Allô.
Allô, voilà. On a Laurence.
Bonsoir.
Avec sa fille que j'ai oublié le nom.
Madeleine.
Bonsoir.
Bonsoir Madeleine. Et on a Caroline sur mes genoux.
Salut.
Donc je ne sais pas si vous avez compté. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouh là là,
il va faire chaud dans le studio. T'as oublié de te présenter.
Ah oui, il y a moi aussi, Stéphane, à l'animation. C'est pas habituel, mais voilà, c'est ce soir. Alors on a Madeleine ce soir va nous parler. Est une a fait beaucoup de natation synchronisée, si j'ai bien compris, et a décidé d'un peu mettre la pause. Hein. Donc elle va nous parler de son expérience de natation synchronisée. Ça me fait penser au film avec Benoît Poulvorde, évidemment. J'imagine que c'est pas exactement le même niveau quand même.
À peine supérieur.
Et puis il y a Virginie qui avait peut-être quelque chose à nous dire, Virginie.
Oui, je vais vous parler d'une série.
Une série, voilà, une série télé, une série de BD, une série de jeux, on ne sait pas très bien.
Une série sur Hulu.
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 Hulu. Ok, et bien sûr, vous pouvez toujours aussi, vous avez des questions, vous voulez intervenir, j'entends plus rien dans mon casque.
Moi non plus. Attends, j'ai l'impression que...
C'est revenu, c'est bon, ça a l'air de...
Non, mais pas non, chez moi.
Non plus.
Qu'est-ce qui se passe
Moi, je vous entends, vous deux.
Ouais. Allô.
Ah, ça
allô.
Y est.
Ah, voilà.
Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, si vous voulez intervenir, vous pouvez toujours nous appeler. On peut vous poser des questions par téléphone. C'est au 815 81 00. Voilà. Alors, avant de faire toutes ces discussions, on va passer une petite musique. Victor est prêt avec la première musique. Hein. Je vois qu'il est tout à fait prêt, là. Il n'est pas prêt du tout, en fait. Il est toujours sur le...
Merci.
Il faut avoir.
J'entends plus rien.
Non, c'est, je crois que c'est Caroline qui chipote
mon casque.
Victor, la musique.
Mais
non,
mon casque aussi.
Moi non plus, je ne t'entends pas.
Moi, j'entends tout le monde. Victor, la musique, mon Lolo, on démarre la musique.
Ah, mon casque, il marche maintenant.
Saïd, ah oui, donc c'est Saïd et Mohamed de Francis Cabrel, une vieillerie, et je vous expliquerai après pourquoi j'ai choisi ça.
Changer les draps de l'hôtel, les traces de doigts sur les poubelles, petite hirondelle au milieu des corbeaux, elle chantait Desperado. Moi j'avais du retard sur le sommeil, je m'étais fait doubler par le soleil. Elle de l'autre côté du couloir, elle faisait chanter les miroirs. J'ai passé une heure de sa vie, une heure sous le soleil d'Algérie, sous la course des planètes, il y a des moments qu'on regrette. Derrière ses paupières mi-closes, je voyais plus de gris que de rose. Quand je suis parti, j'ai bien compris que je perdais quelque chose. Des enfants qui font rien à l'école et qui ont les poches pleines de tubes de colle. De toute façon, personne ne t'aide quand tu t'appelles Saïd ou Mohamed. C'est le ciel en tôle ondulée pour toujours. C'est la fenêtre sur la troisième cour. C'est le cri des voisines plein les oreilles et les heures de mauvais sommeil. Mais s'il y a quelqu'un autour qui comprend le mauvais français, le musulman, sous la course des planètes, ça serait bien qu'il s'inquiète avant que ses paupières n'explosent et qu'elles prennent ce gris en overdose. Quand je suis parti, j'ai bien compris qu'on y pouvait quelque chose. T'envoie 10 francs pour les enfants du Gange parce que t'as vu des photos qui dérangent. T'envoie 10 francs pour les enfants d'ailleurs parce que t'as vu des photos qui font peur. Et elles que tu croises en bas de toi. Elle que tu croises en bas de chez toi. Depuis, je suis retourné à Marseille. Ses amis n'ont pas de nouvelles. Il y a trop d'hirondelles ou trop de corbeaux. Elle a dû changer de ghetto. Moi, je crois plutôt qu'elle change les draps de notre hôtel. D'autres traces de doigts sur d'autres poubelles. De l'autre côté d'un autre couloir, elle doit faire chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs. Chanter les miroirs.
Voilà, c'était Francis Cabrel, un bon vieux de la vieille, avec Saïd et Mohamed. Alors pourquoi Francis Cabrel? Eh ben parce qu'en fait quand j'étais jeune, je suis encore jeune.
Très longtemps.
J'aimais bien Francis Cabrel, c'était l'époque. Et puis quand il y a eu Deezer et Spotify, j'ai cherché là-dessus Francis Cabrel, sauf qu'il n'y avait pas.
Ah.
Et puis récemment, je ne sais plus pourquoi, je suis tombé dessus par hasard, il est apparu, tout le fond catalogue. Alors,
juste pour toi.
Je me suis mis à écouter ça dans la voiture et puis je me suis dit que j'allais en passer une à la radio, pourquoi pas.
Bah merci parce que c'est un super chanteur.
Voilà. Donc on va parler, on va commencer par la natation synchronisée, le grand sujet du jour. Alors je ne sais pas si c'est Madeleine ou Laurence qui se lance là. Donc Madeleine, c'est la nageuse et voilà. Laurence, c'est la maman.
Voilà.
Qui a supporté la nageuse.
Soutenue. Parce que supporter, c'est son rôle à elle en natation synchronisée.
Donc comment ça a commencé comment on tombe là-dedans?
Avant, j'étais une nageuse, donc j'ai commencé quand j'avais 5 ans. Et,
c'est jeune.
Ouais, et après, ma prof de natation, qui elle était une nageuse synchro, m'a demandé si je voulais essayer la natation synchronisée, quoi.
Et t'étais à quel âge, alors?
12 ans.
Mais donc pendant de 5 12. À 12, tu nageais
ouais.
en natation
compétition.
En squat, quoi.
Ouais.
Ouais, ok, ouais.
Et du coup, après, j'ai dit pourquoi pas, et du coup, je suis allée dans une... à une journée porte ouverte. Mm-hmm. Et j'ai essayé, j'ai vraiment adoré, quoi. Et après un bon bout de temps, elle a créé son club dans mon club de natation, quoi. Du coup, j'étais la première nageuse de synchro. Et après, j'ai décidé d'arrêter la natation en compétition pour commencer la natation synchronisée, quoi, parce que j'aimais plus la natation synchronisée, ouais, que la natation, quoi.
Et c'est physiquement, l'un est plus dur que l'autre ou...
Oui, c'est un peu pas pareil. Après, je pense que la synchro, c'est un tout petit peu plus dur, mais je sais pas, je pense que c'est un peu pas pareil.
Je pense que c'est parce que c'est combiné à la gymnastique et qu'il faut aussi faire beaucoup de travail hors sol.
Mmh. Ouais.
Hors sol, c'est...
Hors piscine, pardon.
Hors piscine, oui.
Sur le sol.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Vous êtes combien dans votre équipe? Parce qu'il faut être plusieurs pour nager synchronisé, j'imagine.
Pas forcément, parce qu'en fait, on appelle ça la natation synchronisée parce que tu veux être synchronisé à la musique que tu choisis, quoi.
Ah, ok.
Et du
coup. Il n'y a pas nécessairement d'autres gens.
Tu peux faire un solo, quoi. T'as solo, duo, trio, et après, t'as des teams, quoi. Les teams, elles sont de huit nageuses. Enfin.
Maxi.
Ouais, max 8. Et après, t'as des combos où il y a 10 nageuses, quoi.
Et t'as fait tout ou t'es spécialisé dans un truc, quoi?
J'ai tout fait, mais je préfère les teams que le reste. Parce que j'ai, team et combo, c'est mes préférés. Après, le reste, moyen.
Ok. Et il faut s'entraîner beaucoup là, pour arriver à ça? Ou c'est une fois par semaine, deux fois, trois fois par semaine?
Tous les jours, sauf le dimanche.
Tous les jours? Donc à 12 ans, t'as déjà commencé tous les jours ou c'est venu progressivement, j'imagine?
Non. Je faisais de la natation avant et c'était juste... 4 fois par jour, 4 fois par semaine, et t'avais 2 fois par jour. Et après,
sérieux, oui. Comment on trouve le temps de faire 4 fois par semaine, 2 fois par jour?
Au milieu de l'école, quoi, avant de manger à la cantine.
Oui, mais il faut dire que t'étais en sport-études, natation.
Oui, oui, j'étais en sport-études, du coup j'avais encore plus d'entraînement que les autres.
Ton club de synchro, c'était dans l'école alors?
Non.
Non?
Non, en fait, elle était en sport-études de la 6e jusqu'à la 4e. Donc, les horaires sont aménagés pour faire du sport.
C'était pas ici.
Non, oui, pardon, c'était en Nouvelle-Calédonie.
Ok, ouais.
Et ensuite, comme elle a changé pour la natation synchronisée quand elle était en 4e, là, il n'y avait pas d'horaire adapté. Donc, elle a quitté le sport-études natation pour se consacrer à la natation synchronisée. Dans ces cas-là, enfin, à partir de là, elle a eu des entraînements hors période scolaire. Et du coup, c'était le soir, le samedi, le mercredi après-midi, etc., etc. Donc, elle est devenue... elle a choisi un sport qui était un tout petit sport, pas tellement reconnu et couvert. Donc, c'était plus compliqué pour adapter tout le reste de sa vie autour. Ouais.
Et quand vous êtes venu en Nouvelle-Zélande, c'était il y a 3 ans ou...
2 ans et demi, ouais, à peu près.
Ça a été facile de retrouver une équipe de synchro ici ou... Parce que j'imagine que c'est assez différent.
Bon, je démarre, elle continue, mais on est venu s'installer sur Auckland et sur Glenfield parce qu'il y a un grand club de natation synchronisée.
Vous êtes venu pour ça?
On s'est installé autour de de cette piscine-là pour continuer la natation synchronisée. Mais on venait pour des raisons éducatives, on va dire, de système scolaire, pour notre fils plus particulièrement. Et du coup, Madeleine, on savait qu'il y avait 6 clubs seulement dans toute la Nouvelle-Zélande. Ouais, ce qui n'est pas énorme. Et les 2 meilleurs clubs sont ceux de Tauranga et d'Auckland. Donc Tauranga Synchro et North Harbour Synchro.
Il y a combien de personnes dans ce club? Il y a beaucoup de monde.
North Harbour, elles doivent être 40 ou 45 filles. Et Tauranga, à peu près pareil, ouais, je dirais.
C'est qu'il y a des filles?
Eh oui, sauf si tu veux t'y mettre, Stéphane, il est jamais trop tard. Hein. Tu as vu le grand bain comme moi, on en a parlé déjà.
Ouais. Donc il n'y a pas de compétition masculine.
Tu as des garçons qui, si vraiment ils aiment ça, il y a des garçons qui en font. Et au championnat du monde, il y avait des duos mix, et c'est filles et garçons. Et après, tu as des solos juste garçons, quoi.
Ok. Ouais. Et donc dans les équipes à Auckland, c'est que des filles, quoi.
Ouais. Mmh. Okay,
vous avez eu 2 garçons qui se sont entraînés avec vous pendant un petit moment, là, 12 ans, 13 ans par là.
Il y avait deux garçons qui étaient les frères de nageuses qui voulaient essayer. Du coup, ils en ont fait pendant un petit bout de temps, mais vu que c'était assez dur quand même, ils ont déjà lâché, quoi.
Il faut faire les grands écarts parfaits, droite, gauche.
Dans l'eau en plus.
La tête à l'envers, s'il te plaît. Ce serait trop facile sinon, bah oui.
Oui, moi j'ai une question. Justement pour faire la tête à l'envers dans l'eau, parce que ça doit être très très difficile, faut avoir un pince-nez, non?
Oui. Oui.
Ouais, c'est obligé, hein, je pense.
Oui, du coup, après il y a des filles qui y arrivent sans pince-nez, je sais pas comment elles font. Après, sinon, on a toujours un pince-nez, quoi. Et on en a toujours un dans notre maillot qu'on cache pour au cas où qu'il tombe. Après, tu peux le changer vite fait pendant que tu nages, quoi. Voilà, mais faut le faire sous l'eau, parce que si tu le fais en dehors de l'eau, t'as des pénalités.
Alors j'ai une autre question. Comment on fait, parce que dans les critères pour donner des points, c'est faire en sorte que toutes les filles dans le groupe soient parfaitement synchronisées. Alors c'est assez difficile. Moi, j'ai fait de la danse. J'ai pas fait ça. Et c'est très difficile. Hein. Tout le monde n'a pas le même sens rythmique. Et comme il n'y a pas de musique, ou alors est-ce qu'il y a de la musique et on l'entend bien?
Oui, oui. On a un speaker qui est une enceinte qui va sous l'eau, quoi. Et qui est reliée à l'enceinte de dehors. Et du coup, on entend ce que les gens entendent. C'est relié sous l'eau, quoi.
Ah, d'accord. Parce que ça, en fait, je me disais, c'est quand même.
Tu l'entends sous l'eau, alors?
Ouais.
Tu l'entends bien sous l'eau?
Ouais.
Ok.
Et après, des fois, ça coupe. Parce que c'est pas non plus fait pour être sous l'eau, quoi. Du coup, ça coupe. Et on doit compter. Parce qu'on compte jusqu'à 8 sans s'arrêter, quoi. Si la musique s'arrête, on doit continuer à compter dans notre tête. Et si on voit que des filles savent pas où on est quand on est dans l'eau, on compte, mais sous l'eau. Genre, je sais pas comment j'explique ça, mais genre, on fait tout pour essayer que les filles elles entendent tout sous l'eau.
Oui, vous communiquez, oui, et puis voilà. Vous faites au mieux, quoi. Si vous n'avez pas de musique, oui, bien entendu.
Et vous avez des repères, parce que vous, à un moment, vous devez, mettre les jambes bien verticales. Il y a des repères pour trouver sa verticale ou...
Faut juste se gainer, quoi.
travail de muscle.
Ouais, voilà.
On sent la question très c'est scientifique. Parce que...
pas du tout,
comment tu trouves ta verticale ?
Non, c'est parce que...
On n'y pense pas vraiment.
C'est parce que je pensais, quand j'étais jeune, toujours, et j'ai fait plein de choses quand j'étais jeune, j'ai fait un vol acrobatique. Bon, c'est très différent comme ça. Mais sur les ailes de l'avion, ils ont une espèce d'équerre, justement, pour l'aligner avec l'horizon, pour savoir la verticale, quoi. Mais je sais pas si
voilà, c'est encore plus difficile, ouais. Surtout la tête en bas. Et un point qu'on doit absolument souligner et qui a tout son sens, c'est que elles ont interdiction de toucher le fond de l'eau, de la piscine, le fond de l'eau. Le fond de la piscine, c'est-à-dire que dans les portées où on voit les nageuses voltiger, tout est à la force
on
de la
poussée. On peut pas s'appuyer sur le fond.
C'est strictement interdit, c'est une pénalité
majeure.
Ouais, carrément.
Et donc, c'est profond comment c'est...
Ouais, elles sont dans des fosses quand même.
Bah ça dépend des piscines. Après, pour championnat du monde, ils avaient créé une piscine pour ça, donc tu pouvais pas toucher par terre et c'était genre 2,50 mètres, hein, je crois, 3 mètres, un truc comme ça. Enfin, c'était profond, sans être super profond non plus.
Ouais.
Mais après, à la piscine où je m'entraîne, c'est 4 mètres de profondeur, donc t'es sûr que tu vas pas toucher.
Ils sont dans le bassin des plongeons, des plongeoires, là, pour le...
Ouais. Et je repense encore à ce film, là, où ils cherchent quelqu'un qui retient bien sa respiration, là. Il faut savoir bien retenir sa respiration, combien de temps...
Bah, c'est ça, enfin... Tout le monde nous demande la question fétiche des gens, c'est combien de temps tu peux retenir ta respiration.
Ouais.
Et j'en ai aucune idée parce que je le fais sans y penser, donc je fais les mouvements et c'est sûr qu'à un moment j'ai envie de respirer, mais vu que je peux pas, je respire pas, je continue juste à nager.
Du style 20 minutes en fait.
Non mais voilà, enfin. Il y a des fois, c'est des figures qui sont très courtes, du coup, tu respires, respires pas, et après, tu respires vite fait, donc ça te dérange pas. Et après, t'as des fois où il y a des figures, elles s'enchaînent, du coup, tu respires pas pendant un long bout de temps, mais vu que t'es en train de faire une figure,
t'y penses pas.
Ouais, j'y pense pas, je pense juste au mouvement qu'il y a à faire après, et après, je reste sous l'eau, et c'est sûr qu'après, quand je remonte, et que j'ai capté que j'ai pas respiré pendant un petit bout de temps, je suis là, je suis un peu essoufflé, quoi.
Et donc vous entraînez pas spécifiquement à venir à votre respiration.
On fait des allers-retours sous l'eau, mais ça c'est un peu ennuyeux. Du coup, on préfère juste nager les routines pour juste s'entraîner, quoi.
Puis Madeleine fait partie de celles qui sont au fond de l'eau le plus longtemps, puisqu'elle fait partie des deux trois filles qui sont tout le temps au fond à pousser. Et les plus fines et petites volent à l'extérieur parce qu'elles sont les moins lourdes à sortir de l'eau. Donc elles sont là. Vous êtes 6 dans votre équipe pour les championnats là. Hein.
Mm-hmm.
Elles sont 6. Donc il y en a une qui va faire des voltiges là, mais il y en a 5 qui sont en dessous et elles sont en forme pyramidale en fait. Donc elles décroît la force par se pousser les unes les autres. Et je l'ai vu des fois rester sous l'eau assez longtemps et à se prendre des fois des coups de pied dans la tête ou des choses comme ça, ou une nageuse sur la tête, parce que ça, elles sortent assez haut et quand elles retombent dans l'eau, elles retombent sur le paquet de filles, quoi.
Ah
bah donc
ouais.
Il faut qu'elles apprennent aussi à s'éviter, à tomber, à composer les figures de façon à ce que ça puisse s'enchaîner sans qu'il y ait trop de casse, parce qu'il y a quand même des traumas crâniens importants.
C'est pas juste le rugby, quoi.
Bah, elle a été sonnée une fois, elle a perdu connaissance sous l'eau. Hein. Mmh. Ils l'ont retirée au dernier moment, le couche. Ouais, quand même.
Je crois que c'était la première année que j'étais là. Et c'était cette période-là, parce qu'on s'entraînait pour aller aux Nationals. Et on était en camp, quoi, et on nageait nos routines. Et moi et une autre fille de l'équipe, on a jeté une fille, et en fait, elle a mal atterri, et ses genoux, ils sont tombés sur nos têtes. Mmh. Et en fait, on était un peu sonnés, du coup, on remontait pas facilement. Donc les filles, elles ont dû s'arrêter pendant la routine et nous tirer au bord du bassin pour qu'on puisse s'arrêter et puis reprendre un peu connaissance, quoi. Parce que, On n'avait pas, je me rappelle pas d'exactement tout parce que j'avais perdu un peu connaissance mais je me souviens juste des filles qui me traînaient au bord de la piscine, quoi.
Eh ben, c'est sérieux, hein. Et entre le... Ouais, vas-y, Virginie.
Bon, j'allais dire juste un commentaire. Je trouve ça... Parce que moi, je regarde quand il y a les Jeux Olympiques. Ça fait pas que la gymnastique, tout ça. Il y a quelques sports que je regarde et ça en fait partie. Et ce que je trouve toujours très intéressant, c'est l'habilité aux nageuses de pouvoir garder le sourire en sortant de l'eau et rentrer dans l'eau et ressortir avec le sourire. Et à chaque fois, je me dis, faut quand même y penser. Enfin, parce que on demande pas à un coureur de 100 mètres de sourire en même temps qu'il court.
Ouais, t'as pas vu les pinces transparentes qu'elles avaient sur les bras, comme ça.
Mais c'est ça, il y a du scotch, la bouche. Je me dis, et je trouve ça toujours très très impressionnant de pouvoir garder le sourire en sachant, parce que c'est un peu des sports. Enfin, c'est des sports qui demandent le sourire. C'est comme les danseurs professionnels, faut qu'ils gardent le sourire, etc. Et c'est pas nécessairement quelque chose qu'on demande à tous les sportifs. Et je trouve ça. Et par exemple sur la natation, de manière générale, on n'attend pas d'un nageur qu'il sourie. Et je trouve ça, ben voilà, c'est plus un commentaire. Je trouve ça toujours très épatant de voir que ben y a l'attente du sourire en sortant. C'est voilà, c'est tout. C'était juste un commentaire.
Les coachs, elles me disent souvent, n'oublie pas de sourire, parce que nous on pense à plutôt à nos figures, à qu'est-ce qu'on va faire après et tout, et on pense jamais à vraiment sourire ou faire ce qu'on sourit. Mais après, si ta musique elle est pas très souriante et que c'est quelque chose ton thème, par exemple là notre routine c'est James Bond, du coup on fait un peu des expressions voilà. Et du coup, enfin, des fois, pendant la routine, tu dois changer d'expression et du coup, tu dois penser à ça. Et on fait ça dernière minute, les expressions, parce que on s'entraîne pendant figure et bras et retenir notre souffle et tout. Et c'est genre 2-3 jours avant que tu fasses la vraie compétition que les coachs, elles sont là. Oui, donc alors là, cette partie, tu vas sourire, puis là, t'es en colère et là, tu souris. Ah oui, puis là, t'es en colère encore. Et du coup, en fait, tu changes toujours, quoi. C'est pas tout le temps sourire, c'est... C'est tout le temps en train de bouger.
C'est un peu comme l'hôtesse de l'air.
Ouais, c'est ça.
J'ai été hôtesse pendant quelques années. C'est un peu comme ça. Quoi. N'oublie pas de sourire. Mais je travaille là. Je veux dire, faut que je serve des gens. Voilà, et c'est pas toujours.
T'as été hôtesse de quoi?
J'ai été hôtesse, oui.
C'est ça qu'on répond. Comme chanson.
C'est super intéressant.
Non, c'est pas intéressant. Et il y a des choses, vaut mieux oublier.
Hôtesse de l'air.
Non, mais c'est pareil. En fait, j'étais sur Eurostar, c'était la même chose, mais je volais pas.
Ah,
mais
Eurostar, oui.
Ah oui.
Mais c'est pareil. Hein. C'est la sécurité. C'est toujours pareil, un training, etc. Puis le service était le même, mais. Non, mais c'était pas pour moi.
Okay. Alors, on va mettre une petite musique, là, Victor. Qu'est-ce que tu nous mets?
Le chacha de l'insécurité.
Ah, bah voilà,
justement,
ça tombe
dans l'Eurostar.
Et c'est de qui?
Louis Chédid.
Louis Chédid. Voilà.
En avant, le chacha de l'insécurité.
Nous vivons des temps difficile, sous-marin nucléaire, bazooka missile. Nous vivons dans des pays fragiles, coincés entre l'Est et l'Ouest, funambule sur des fils, à éplucher les journaux du soir. Le monde entier est un cauchemar. Toutes ces angoisses qui nous contaminent, toutes ces menaces qui nous minent, toutes ces armées de terre, de l'air, de la marine, tous ces faits divers qui envahissent nos living. À écouter les transistors, faudrait vivre dans des coffres forts. C'est le cha-cha, l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée, cha-cha, cha-cha morose, cha-cha, cha-cha névrose. Dans nos voitures des chaînes, à nos serrures des alarmes, cachées sous nos tentures des explosifs, dans nos boîtes à chaussures, toute cette hystérie, tout ce stress, ça fait marcher le petit commerce. Y en a qui louent des chiens loups, qui achètent des revolvers, qui voient des gangsters. Y'en a qui se prennent pour John Wayne, qui dégainent plus vite que dans les westerns. À trop regarder la télévision, y'en a que ça rend de plus en plus con. C'est le cha-cha de l'insécurité, le cha-cha-cha, la panique organisée. Tcha tcha, tcha tcha morose, tcha tcha, tcha tcha névrose. On a l'humanisme facile, on a la force tranquille, on vend des armes à l'Amérique latine, tout en dénonçant ces dictatures assassines. Nous vivons le temps réaliste des marchands de feux d'artifice et le tcha-tcha de l'insécurité, le tcha-tcha-tcha. La panique organisée, tcha tcha, tcha tcha morose, tcha tcha, tcha tcha névrose. Nous vivons le temps réaliste des marchands de feux d'artifice, tcha tcha de l'insécurité, le tcha tcha tcha. La panique organisée, tcha tcha, tcha tcha morose, tcha tcha, tcha tcha névrose.
Chacha de l'insécurité. On va un peu continuer de parce que Laurent, t'avais préparé un historique là, tu
m'as non dit, pas vraiment mais j'ai été chercher comme on venait à la radio quand même. J'ai été regarder un petit peu et pour savoir de quand ça datait, on faisait.
Tout à fait.
Bon, on a déjà parlé pas mal de tout ça, mais en fait c'est Annette Kellerman. Une franco-américaine, je sais pas si elle était américaine ou australienne, je crois que le papa était australien, mais la maman était française, donc qui s'est produite pour la première fois en 1907 à New York dans une piscine vitrée, parce qu'elle faisait des démonstrations dans un aquarium, je crois que c'était à Sydney quand elle était jeune. Et j'ai un petit peu cherché d'où elle venait, cette Annette là. Et en fait, elle a fait de la natation parce que elle devait se muscler. Elle avait des atrophies musculaires.
D'accord.
Et elle a tellement bossé qu'elle est devenue championne de natation. Puis elle s'est orientée sur l'artistique et voilà. Après première compétition à Montréal en 1924, premier championnat du monde en Yougoslavie à Belgrade en 1973.
Ouais, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts là.
Ouais, mais ça met du temps quand même pour devenir une discipline reconnue. Ça, et puis ensuite.
Les Jeux Olympiques, c'est depuis quand?
Pour les Jeux Olympiques, faut savoir que c'est pas une discipline qui fait partie obligatoirement de la sélection des Jeux qui sont présentés aux Jeux Olympiques. Chaque pays organisateur a sa liste de jeux, enfin normaux, et puis ils ont un choix à faire parmi un certain nombre de disciplines secondaires, on va dire entre guillemets, et bah la natation artistique, puisqu'elle s'appelle la natation artistique depuis 2 ans maintenant, c'est plus la natation synchronisée, au grand désespoir des nageuses qui n'aiment pas ce mot-là, mais ça fait partie de pas mal de Jeux Olympiques parce qu'elle est très visuelle et, ouais, et très appréciée. Voilà. Et quand tu parlais du grand bain, c'est un sport qui tend à devenir mixte, puisque les hommes commencent à faire leur petit chemin en natation artistique, et ils ont commencé, donc ils sont reconnus aux États-Unis, au Canada, en Italie, en Russie et en France. Il y a des compétiteurs masculins. Et en 2000, la Fédération internationale de natation, la FINA, a accepté que les hommes participent aux compétitions internationales. Par couple mixte, en couple mixte. D'accord?
Pas juste des hommes.
Non,
Non, ils étaient présents à la Coupe du Monde de Zurich en 2002. Après, si des spécialistes m'écoutent, ils peuvent appeler pour elles, peuvent appeler, parce que ce sera des filles, j'en suis persuadée, pour préciser mes fautes.
815 81 00.
Ouais, Charlotte Prioré à Nouméa, si tu nous entends. Hein. Et en 2015, il y a eu donc les premiers duos mixtes. Mais la petite particularité, c'est que les hommes n'ont pas le droit de participer aux Jeux Olympiques pour l'instant. Voilà.
C'est bizarre pourquoi ils font tous ces règlements. Pourquoi
Pour faire parler les gens sur Amuse-Gueule le dimanche soir à 18h.
Est-ce qu'on pourrait pas juste dire les hommes ils peuvent en faire aussi et c'est tout pareil quoi.
Ouais. Non, les hommes sont exclus de ce sport-là aux Jeux Olympiques comme la gymnastique rythmique. Il n'y a pas d'homme en gymnastique rythmique.
C'est peut-être mieux comme ça.
Peut-être. Ouais.
Non, mais la gymnastique, non, c'est mieux comme ça.
Non, mais c'est bizarre qu'il y ait tous ces règlements sur des choses qui sont pas très importantes. Quoi.
Voilà, on peut le voir comme ça. Puis surtout que les hommes ont autant de capacités à faire et de la gymnastique et de la natation et de la danse. Donc, ils auraient absolument les mêmes compétences pour faire.
Non, on veut pas de collant. On veut pas de collant moulant. Non, non.
Ok, donc on a parlé des entraînements là, et puis t'as fait beaucoup de compétitions. Je crois que tu peux un peu parler de ça, comment t'as commencé, comment ça se passe.
Ma première compétition c'était les championnats de Nouvelle-Zélande avec l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Parce que
c'est quand t'étais encore en Nouvelle-Calédonie.
Ouais. Du coup en Calédonie j'en ai fait qu'à.
Non, mais c'était il y a 4 ans.
Oui,
le premier championnat que tu as fait, c'était il y a 4 ans à Dunedin.
Du coup, voilà.
Ah, donc tu es allé à Dunedin depuis la Nouvelle-Calédonie.
Ouais. Oui.
Gros voyage quand même.
Ouais.
Non, mais c'est pas loin, c'est quoi? C'est 3 heures de vol.
C'est
juste à côté, la Nouvelle-Calédonie. On ne se rend pas compte en fait, mais c'est vraiment à côté. Hein.
Ah, ouais, oui.
Pour une compétition sportive de l'équipe de l'école, ça fait un budget, quoi.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'était rigolo pour les petites pitchounettes qui avaient commencé depuis.
Pas longtemps.
Un an à peu près, elles avaient 12-13 ans. C'était leur première grande expérience. C'était super.
Je me souviens très bien en plus parce qu'on est arrivé à Dunedin. Et nous, la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, moi je crois que j'étais déjà allée, mais la plupart des filles, elles n'y étaient pas. Et il a commencé à grêler. Et en fait.
Ouais, Dunedin.
Voilà. Et
venant de Nouvelle-Calédonie.
On était terrorisés parce que genre il pleuvait. Et puis là, d'un coup, il pleuvait un peu trop fort. Et du coup, on a regardé dehors et puis on voyait des gros glaçons quand on était là. Il se passe quoi là? Et en fait, on s'est mis à courir d'une chambre à l'autre sur les balcons parce que je sais pas, c'était marrant de se faire attaquer par la grêle quoi.
Ah, c'est clair.
Et du coup, on courait d'une chambre à l'autre. Sous la grêle et après quand on est revenu on avait tout froid et on avait tous des points rouges partout à cause des gros grêlons qu'on se prenait sur la tête quoi. Mais c'était super marrant quoi, parce que ça nous a toutes marqué, c'était nos premiers championnats donc c'était marrant quoi.
Et le championnat lui-même, s'est bien passé?
Oui, je me souviens pas super, mais je sais qu'on était
contente de vous.
Oui, on était super contente de nous quoi. Du coup,
ça t'en donnait envie de continuer quoi.
Oui, voilà. Et après le deuxième championnat, c'était à Tauranga. Et là, j'ai pas vraiment grand souvenir, parce que rien comme la grêle ne s'est passée.
Venais toujours de Nouvelle-Calédonie.
Oui. Ouais. Là, toujours de Nouvelle-Calédonie. Et du coup, je me souviens plus trop. Je me souviens avoir fait un duo, mais après, j'étais venue que pour un duo, je crois.
Et t'as été sélectionnée parmi les gens de Nouvelle-Calédonie ou comment ça se passe avant d'arriver?
Oui, voilà. En Nouvelle-Calédonie, on fait une sélection et après, on a 2 entraînements de plus par rapport à un entraînement au lieu de 2 entraînements par semaine. Mercredi et samedi, on en avait 4 avec le mardi et jeudi, je crois. Ce qui était, pour nous là-bas, quand j'étais là-bas, c'était tellement, c'était horrible. J'étais ah non, mais on a 4 entraînements par semaine plus la natation, blablabla. Et après, je suis arrivée ici et c'était entraînement tous les jours, sauf le dimanche. J'étais un peu terrorisée. J'étais, je vais pas tenir. Mais final,
oui, justement, comment? Parce que je sais pas, quand on est jeune, on a des copains, on va aller au cinéma, on veut faire ci, on veut faire ça. Comment on fait avec 6 entraînements par semaine?
Tu dis non à tout.
C'est pas un peu frustrant?
Si, très très frustrant. Et
malgré ça, tu préférais faire la synchro?
Oui.
Voilà. Ouais, elle l'a fait pendant 3 ans, là. Enfin, elle finit sa 3e année ici.
Donc, oui, elle s'est quand même.
Bah après, c'est très frustrant parce que quand t'es en camp pendant les. Parce que ça va faire un an et demi depuis que je suis dans l'équipe nationale que pendant toutes les vacances, en fait, bah, on n'a pas de vacances. On est juste en camp d'entraînement et on revient la nuit même d'aller à l'école le lendemain, quoi. Ouais. Du coup, on n'a pas de break. Pendant les 10 semaines d'école, donc on va à l'école et après 2 jours avant la fin de l'école, on part pour le camp d'entraînement et on revient le samedi veille, ou dimanche de reprendre l'école le lendemain, quoi.
Donc il y a jamais de vacances avec papa maman pour aller faire le Tongariro et...
Non. Non, il y a pas de ça, il y a pas de même de soirée, enfin le vendredi soir avec des amis ou même le soir après l'école, n'est rien parce que du coup il y a entraînement. Le samedi matin il y a entraînement, du coup le vendredi tu peux pas trop sortir. Et après, du samedi à dimanche, c'est le seul moment de libre. Mais le dimanche, je préfère dormir après toute la semaine d'entraînement que de sortir. Du coup, c'est un non encore.
Mais donc, il faut être super motivé.
Ouais, voilà. Et ça fait après, si c'est des bons amis, ils comprennent. Et sinon, ils sont un peu là. Mais pourquoi tu veux pas sortir? Blablabla. Ils t'inventent des excuses. Ils sont là, mais non, mais je sais que tu t'entraînes pas autant. Tu veux juste pas sortir et tout. Je suis là, pas trop ça.
Le groupe de filles avec qui tu fais de la natation synchronisée, vous vous entendez toutes très très bien de manière générale ou il y a quand même un peu de compétition et elle bouge la tête pour me dire qu'on va lui laisser expliquer comment ça se passe avec les autres filles.
Non, c'est il y a beaucoup de. Après c'est un sport de filles et les filles elles aiment bien parler. On va dire ça comme ça. Mais il y a beaucoup de compétitions je sais pas comment dire ça mais
c'est surtout pour remettre ça dans le contexte. Quand on est arrivée, elle est arrivée dans un club où les filles nageaient ensemble depuis plusieurs années. Elle est arrivée comme une boule au milieu d'un jeu de quilles. Ouais. Et du coup, ça a un petit peu déréglé tout l'équilibre affectif dans le club également.
Oui, la dynamique du groupe, oui.
Oui, c'est ça. Et il a fallu qu'elle soit assez persévérante pour baisser la tête et continuer de se concentrer sur la natation parce que il y a des filles, maintenant c'est sa meilleure amie dans le club, mais elle lui a pas parlé pendant plusieurs mois, elle lui disait pas bonjour, rien du tout. Madeleine, elle est passée par des moments pas très joyeux quand même, la première année, ouais.
Tu prenais la place de quelqu'un ou venais en plus ou...
Elle venait s'insérer au sein d'eux, donc fallait que les autres lui fassent un peu de place. Elle ne prenait pas la place d'eux, mais il fallait faire un peu d'espace pour Madeleine. Et Madeleine, elle arrivait de Nouvelle-Calédonie. Elle la connaissait des deux dernières compétitions, des deux dernières années, en fait. Des années précédentes.
C'est parce qu'elles étaient jalouses.
Voilà. Eh bien, tu as exactement compris. Je leur ai toujours dit ça. C'est de la jalousie. Ne t'inquiète pas, ça va se passer.
C'est toujours plus. C'est vrai que si tu avais. J'en sais rien, je n'étais pas là, mais j'imagine si tu avais été mauvaise, elle t'aurait peut-être critiquée pour être mauvaise, mais ça aurait été peut-être plus simple que si tu étais très bonne à ce que tu faisais, forcément, elle se remettait en question. C'est vrai que c'est toujours un peu comme ça. Mais ça ne change pas tellement du monde en général. C'est une belle école de vie. C'est partout pareil.
Le monde du travail.
Oui, le monde du travail est pareil.
Quand on débarque hôtel sur un Eurostar et qu'il y en a d'autres.
Exactement. Je pourrais expliquer d'ailleurs comment ça se passe avec les groupes de travail dans ce genre d'environnement. Mais c'est vrai qu'au travail, c'est pareil. Quand on change de travail et qu'on arrive... Ouais. Tout le monde nous regarde, ça met à peu près 6 mois à 1 an pour vraiment s'établir. C'est pas très différent.
Oui, mais c'est une belle école de vie, je pense, pour se préparer à ce que ça va être dans la vie professionnelle et autres. Hein. C'est ce qu'on en parlait en venant tout à l'heure. Et c'est vrai que, en plus, pour continuer, elle a passé, quand ils se sont rendus compte qu'elle était également néo-zélandaise, parce qu'ils pensaient qu'elle avait qu'un passeport français. Mais elle avait la double nationalité déjà. Donc ils ont dit, mais tu peux passer les tests pour rentrer dans l'équipe nationale. Et il y a deux équipes nationales. Il y a une équipe junior qui est jusqu'à 13 ans.
14
ans. Et il y a l'équipe senior qui commence à
14.
Et entre les deux, on fait quoi?
ça se chevauche. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que les nageuses, elles ont, les filles de son club, ça fait peut-être 8 ans qu'elles nagent. Madeleine, elle finit sa cinquième année, quoi, ou oui, je crois qu'elle finit sa cinquième année. Donc, elle n'a pas autant d'expérience et elle a 17 ans et demi. Les filles qui sont dans son équipe, la plus jeune, elle doit avoir 14 ans, 15 ans.
Dans mon équipe, la plus jeune, elle a 15 ans.
Ouais.
Ah, c'est
et donc,
jeune, hein.
Et donc, du coup, quand il a fallu passer les tests, même les juges et la sélection nationale avaient du mal à lui faire passer le test de rentrer en équipe première, alors que toutes les filles venaient d'équipe seconde et montaient en équipe première avec l'âge et les capacités. Toutes les années, elles sont jugées hein, pour savoir si elles continuent ou pas, si elles ont le niveau. Mais là, c'était la seule. Elle est restée 4 heures à la piscine du Myriam. Elle avait 3-4 juges et venait avec les papiers pour se mettre d'accord sur est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça pour elle. Donc ça a été, elle était encore une fois dans un cas particulier, quoi. Ouais. Donc je l'ai trouvée très courageuse de continuer l'aventure.
Mais c'est bien d'être un cas particulier. faut vraiment pas sous-estimer l'avantage d'être particulier.
Exactement.
Et donc là, on a parlé de tout, 6 fois par semaine, c'était dur, etc. Mmh. Là, t'as décidé d'arrêter, c'est ça?
Oui, du coup, parce que ça devient un peu trop dur. Et je pense que j'ai fait le tour. Quoi. Après, même si ça fait pas longtemps par rapport aux autres filles, vu que j'ai nagé toute ma vie et après j'ai changé à synchro directement. Enfin, moi, j'adore le sport. Du coup, j'aimerais bien essayer d'autres sports et voilà.
Ma maman s'inquiète.
Non, parce qu'elle m'a parlé du rugby, si tu veux. Donc, on parlait de trauma crânien. J'ai fait un peu les gros yeux quand elle dit rugby.
Et du coup, j'ai décidé d'arrêter. Puis, les 2 ans en équipe nationale, c'était super et tout. Mais après, je m'entendais pas super avec les filles de l'équipe. Du coup, j'avais pas. Enfin, j'aimais bien m'entraîner avec elles, mais il y avait toujours des choses qui me faisait pleurer après l'entraînement, qui me donnait juste envie de rentrer à la maison et d'arrêter maintenant directement. Et après j'ai toujours des problèmes de santé physique et j'ai eu des mal aux épaules pendant longtemps et après ça a été les hanches et parce que quand t'es dans l'équipe nationale, bien sûr, ils veulent la perfection. Et du coup, quand tu fais les grands écarts et tout, ils sont toujours là à te pousser.
À t'appuyer dessus, tu veux dire.
Ouais, voilà. Enfin, ils te poussent par terre, ils t'appuient. Et toi, t'es juste en pleurs. Mais ils sont là, non, mais c'est bien pour toi, c'est bien, c'est bien. Et du coup, c'était pas super, super. Et oui, du coup, j'ai super mal aux hanches depuis.
Ouais. Pourquoi? Parce qu'on vient de trouver il y a 2 semaines qu'elle avait une spondyliarthrite ankylosante, qui est une maladie génétique de son papa. Et du coup, elle a une inflammation des canaux dans les os de la hanche.
Dans les joints, surtout.
Et il faut faire du sport, mais pas à outrance. Donc le à outrance qu'elle a fait pendant 2 ans l'a sévèrement punie sous forme de douleurs violentes. Mais elle a tenu et puis voilà, elle a mis du temps à accoucher de la décision, mais elle vient de prendre la décision d'arrêter et on comprend tout à fait.
Donc là, c'est fini ou t'arrêtes dans l'année ou...
Non, là, j'attends en septembre, juste avant le...
Dans 2 semaines ? Dans 3 semaines ?
On est en septembre, ah oui.
On est déjà en septembre.
À la fin du mois, du coup. Après Nationals, du coup, je vais dire au revoir au club, quoi. Parce que National, c'est la dernière chose cette année. Et après, j'allais rester juste dans les... Enfin, après National, j'allais rester pour faire les trials pour l'équipe nationale l'année prochaine. Et au final, j'ai dit non. Du coup, je rentrerai comme toutes les autres filles qui ont décidé de ne pas faire les trials pour l'équipe nationale cette année. Enfin, l'année prochaine. Du coup.
Et donc, Laurence, la maman, t'es contente qu'elle arrête?
Du moment que ça vient d'elle et que elle a pas été non plus feignante dans ce sport, elle a vraiment bossé et je pense que elle a été au bout de ce qu'elle voulait faire et physiquement ça lui a coûté beaucoup. Si elle avait été plus en forme physique, peut-être qu'elle aurait continué un peu plus, mais elle a surtout envie de reprendre une vie d'adolescent, de jeune fille et on lui en voudra pas parce que ça passe vite, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et qu'on en a qu'une de jeunesse, donc là je pense qu'elle peut la consacrer à autre chose et surtout qu'à l'école elle vise l'excellence toujours, donc ça lui demande aussi beaucoup d'heures de travail, donc voilà.
Et puis, tu m'as parlé du coût là, de toutes ces compétitions. Ça, j'imagine que tu vas être content de plus les avoir. Ouais.
En Nouvelle-Calédonie, on s'en rendait beaucoup moins compte parce que dans notre système, il y a vraiment beaucoup d'aide pour le sport. Ouais. Donc, la ligue de natation, les différents organismes fournissent pas mal de fonds à tous les sports. Il n'y a pas de sport majeur ou de sport mineur, il y a des sports.
Donc même pour aller en compétition à Dunedin, ils fournissent des fonds, quoi.
Ben écoute, je vais te dire un truc, ça coûte moins cher. Là, on a encore le cas, hein, parce que c'est encore à Dunedin cette année. Les filles qui arrivent de Nouméa payent moins cher que nous qui arrivons d'Auckland.
Ok.
Voilà. Ça coûte à peu près 1000 dollars, là, juste pour la compète nationale.
Et ça couvre quoi, ça? C'est le vol, tout, le logement,
tout, ouais. Les frais de participation, parce que tu payes à chaque entrée de compétition, en fait. Si tu fais un solo, un duo et un team, tu payes trois fois.
Mais c'est cher, ça, ou...
Ouais, je sais pas exactement, le club s'en charge, mais le club nous fait payer des factures.
Ouais, ouais.
Des trucs tout bêtes aussi, hein. Tu vois la piscine quand elle est en entretien, qu'elle est fermée, la piscine de Glenfield. Donc les filles peuvent pas s'entraîner pendant trois semaines à la piscine, donc le club cherche une piscine d'accueil, et la première année, la piscine d'accueil, c'était à côté de l'Eden Park, là-bas.
Ouais.
Voilà, donc fallait y aller quatre fois par semaine. Et on nous a facturé 100 dollars à chaque famille, en plus de nos 350 dollars de term fee. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc l'année dernière, j'ai fait le total, des frais de synchro pour l'année dernière pour Madeleine. Bon, elle est allée quand même à différents championnats, elle a voyagé loin. Non, elle a voyagé en Amérique du Sud et puis cette année en Corée, donc au championnat du monde. Donc c'est une compétition comme ça, c'est 8000 dollars. Voilà, 8000 dollars qui est aux frais de la famille, le reste a été pris en charge, attention. Et sur l'année, c'est 16000 dollars. Entre les camps, un camp d'entraînement, c'est 600 dollars.
Donc là, vous allez pouvoir partir en vacances. Non seulement vous allez avoir le temps, mais vous allez avoir l'argent.
Je pense qu'on va aller au championnat du monde en Corée, mais en spectateur. Non, je rigole.
Non. Vous allez aller en Amérique du Sud, mais en touriste.
Bon, on va faire le tour du monde à ce prix-là. On a les moyens. Là,
non, mais à chaque fois, je disais, je suis désolée de faire ce sport. C'est tellement cher à payer et tout.
Non, mais c'est aussi un pays, la Nouvelle-Zélande, où tout est mis en place pour qu'on fasse ces levées de fonds, ces récoltes via les fundraising.
Ouais,
là,
ça fatigue. Hein.
Donc, on a fait des ventes de saucisses pas mal de week-ends. Hein. On a fait les ventes de billets de loterie. On a fait plein de choses.
J'imagine.
Voilà.
Ok, Victor, une petite musique, là, pour faire une transition. Qu'est-ce que tu vas nous mettre, là?
La boulette.
La boulette de Diams. La boulette. C'est l'autre curseur, je crois. On n'entend toujours rien, la boulette. Elle arrive, la boulette?
Ça y est.
Voilà.
Je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors, ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté, mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Comme un goût d'erreur quand je vois le tour de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le maquère, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat. Comme un goût d'anthrax pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on est. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on est tôt, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non. Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux de police. Y'a comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000. Y'a comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse, ça te casse les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime. Juste parce que ça fait zizi. Y'a comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone. Comme un goût de hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on est tôt, non. C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non. Génération, non.
la bouche de Sarko, comme un goût de Michto près des Mercos. Y'a comme un goût de boum boum dans les chambres des jeunes, y'a comme un goût de boum boum dans le cœur de mes sœurs, y'a comme un goût de chouille sous les doutes, tout ce qui se déroule, y'a comme un goût de foulette, de boulette qui sont dans la foule. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne, non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes, non, non, génération, non, non.
C'était la boulette de Diams. Alors, ben Virginie, vous voulez nous parler de d'Oulu, c'est ça ou c'est quoi Oulu d'abord?
Non, c'est pas Oulu, c'est la plateforme internet Oulu comme Netflix qui
je
présente.
Je connaissais même pas Oulu.
Ouais, moi non plus. Cette série.
Comment on va sur Oulu?
Je crois que tu prends le sur internet.
Mais il faut, c'est encore une de ces plateformes, il faut payer par mois,
oui,
etc.
C'est
que,
oui, c'est, je sais pas qui est-ce qui fait ça, mais c'est comme.
Ouais,
c'est
ouais,
quoi
c'est
l'autre plateforme? Oui, c'est comme Netflix.
Il y a Amazon Prime Video, il y a voilà, que des navets. C'est très très mauvais.
De quoi?
Amazon Prime Video.
J'ai pas vu, non.
Nous, on a eu un abonnement gratuit d'un an. Alors on s'est dit, bon, c'est gratuit, on le prend. Et en fait, il n'y a rien, quoi.
Il y a déjà Netflix, c'est.
Oh, mais ce qui est terrible sur Amazon, c'est qu'ils ont plein de trucs, mais la plupart, c'est des navets. Donc, de temps en temps, il y a un bon truc, mais il faut vraiment le trouver, quoi.
Et toi qui aimes les séries sur Netflix, t'as pas vu Call My Agent?
Non.
Ah ben ça, c'est une série française qui s'appelle 10%, en fait. C'est une de mes étudiantes qui m'en a parlé.
Ça me dit rien, non?
Non.
J'en ai vu pas mal de françaises, que je trouve très bien, d'ailleurs.
Mais celle-ci, franchement, elle est bien faite. Hein.
D'accord.
C'est avec plein d'acteurs connus. Chaque épisode, c'est un acteur différent, parce que c'est une agence d'acteurs, en fait.
Ah, ça me dit quelque chose.
Et franchement, moi, je me suis régalée.
Mais j'ai regardé, elle est encore sur Netflix d'ailleurs, au passage, une série qui s'appelle Zone Blanche, que je recommande. Elle est vraiment,
d'accord,
vraiment super bien. C'est une série plus ou moins policière, avec une trame, il y a une histoire qui passe au travers de tous les épisodes. Et après, tous les épisodes ont leur propre histoire. Vraiment, vraiment très, très bien. Très bien filmé. La filmographie est vraiment très, très bien. Je recommande. Donc, je vais vous parler de cette série qui s'appelle, en français, j'ai regardé La Servante Écarlate. Et à la base, c'est un livre de science-fiction dystopique qui a été écrit par Margaret Atwood.
Tu nous rappelles ce que c'est la dystopie, hein?
Je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer avec des mots français. Je pourrais l'expliquer en anglais. Mais dystopie, c'est un monde qui est inventé, qui n'existe pas, mais qui est assez proche du réel, c'est ça?
D'accord.
C'est ça, non?
Oui, t'as demandé, mais en fait, il s'en fiche.
Ah ouais, en fait, je pensais que tu savais et que tu voulais...
Ah non, pas du tout, je
non,
sais pas.
D'accord. Il me semble que dystopie, c'est un monde qui est mis dans le futur et où... Bah,
ou pas dans le futur, d'ailleurs.
Où les choses ne marchent pas très bien, disons. Genre Hunger Games, c'est
dystopique. Oui,
dystopique. Ou...
Oui, oui, tout à fait.
C'est une société qui est non désirable ou qui fait peur.
Oui, et puis il y a l'inverse, je ne sais plus ce que c'est, où c'est désirable, oui.
Ça, c'est une utopie. Hein.
C'est un conte de fées.
Donc une dystopie, c'est l'inverse d'une utopie. Quoi.
Voilà.
C'est un futur qu'on ne voudrait pas.
Et donc voilà, c'est un science-fiction. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on appelle ça science-fiction dystopique, parce qu'on pourrait l'appeler juste dystopique sans dire nécessairement science-fiction.
Non, là, c'est l'antonyme de l'utopie.
Bravo, on apprend quelque chose.
Donc le contraire de l'utopie. Ok, donc c'est une dystopie.
Voilà, donc c'est une dystopie et ça parle d'un monde où beaucoup de femmes sont devenues, comme on dit pas, j'allais dire non fertiles. Non, stérile, ça, stérile, stérile, voilà.
C'est l'antonyme de fertile.
Voilà.
On n'a qu'à parler en antonyme.
Et donc, ce monde est de cette venue théocratie où donc ils sont tous très très religieux. C'est une dictature religieuse et ça s'appelle la République de Gilead. Et donc, il y a des commandants qui gouvernent donc Gilead, la République de Gilead, qui ont des femmes. Donc toutes les femmes s'habillent en vert. Et ils ont des concubines. Alors, c'est pas vraiment des concubines amoureuses. C'est des femmes qui sont, elles, non stériles. Donc, qui sont fertiles, pour le coup. Et qui sont dans les maisons et s'en servent, en fait, pour faire des bébés. Et donc, les femmes, elles viennent dans ces familles. Elles font un bébé pour cette famille. Et elles changent de famille. Et donc.
Super boulot.
Oui, super boulot. Et donc, il y a des règles qui sont donc très, très strictes, des règles de vie. Donc, ils n'ont pas le droit de lire, ils n'ont pas le droit d'écouter de la musique. Et donc, il y a beaucoup de peines, de conséquences, on va dire, pour tout ce qui est fait quand il y a des règles qui sont...
non respectées.
Non respectées, voilà. Et donc, par exemple, si on lit un livre, on se fait couper un doigt. C'est la première, première alerte. Après,
ça rigole pas, hein.
Et puis donc tout est basé sur la Bible, donc il y a beaucoup de références à la Bible de manière constante, même si les gens n'ont pas le droit de lire la Bible. C'est ça qui est intéressant, ils n'ont pas le droit de la lire. Par contre, il y a des références constantes sur la Bible et les conséquences pour les erreurs commises sont faites en fonction de la Bible. Et donc c'est assez intéressant parce que alors moi j'ai trouvé ça très très intéressant dans le sens où ça se passe dans un milieu ça se passe aux États-Unis en gros, hein, c'est les États-Unis sont devenus Gilead. Et donc comme c'est pas, on va dire, ce qu'on s'imagine toujours, les dictatures religieuses, ça se passe, on s'imagine toujours dans le médioliste, je vais y arriver.
Voilà,
merci. On se rend compte, je ne parle jamais français à la maison, voilà, c'est pour ça que je n'y arrive pas. Et on s'imagine toujours que c'est comme ça. Et là, ça se passe dans un milieu justement où on peut faire une connexion avec cette vie assez facilement. Et du coup, l'idée de vivre dans une dictature religieuse prend tout son sens dans la mesure où moi, je vis dans un pays où il n'y a pas de pression religieuse et où je suis blanche de peau, voilà, et il n'y a pas cette domination, aucune manière de religion, quoi que ce soit. Et là, justement, je me suis dit, j'arrive vraiment à connecter, et c'est ça qui m'a vraiment troublée d'une certaine manière, c'est cette habilité à pouvoir se connecter avec ce que ça pourrait être de vivre dans une dictature religieuse. Et j'ai trouvé ça fascinant, parce que finalement, on se dit que c'est pas si loin de nous et ça pourrait se passer demain, ça peut nous arriver très très facilement. Il suffit juste des gens qui arrivent,
un bon
prise
dictateur.
De pouvoir, voilà.
On a déjà eu ça dans le passé, pas pour les mêmes raisons.
Mais c'est vraiment très très fascinant et justement avec ce système des habits où ça me rappelait justement l'Afghanistan avec les.
Burqa.
Voilà, la burqa. Et en fait, il y avait vraiment cette connexion avec tous les habits, etc. Donc, les femmes de commandants s'habillent en vert. Ces femmes qui font des bébés pour les commandants, elles s'habillent en rouge. Et après, les femmes de chambre, on va les appeler comme ça, elles s'habillent en gris. Et donc, les femmes ne peuvent pas travailler. Les femmes n'ont pas le droit nécessairement à dire quoi que ce soit, à véhiculer une opinion, quelle qu'elle soit. Et vraiment fascinant, quoi. Alors que je recommande justement parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens où ça fait réfléchir et que c'est pas simplement une série. Moi en tout cas ça m'a permis de réfléchir et de mettre beaucoup de, on va dire, de faits assez récents au niveau des dictatures religieuses vraiment en perspective. Donc voilà, c'est pour ça que je recommande.
Tu rappelles le titre?
Donc en anglais ça s'appelle Handmaid's Tale. Et en français, ça s'appelle La Servante Écarlate. Il y a trois saisons, qui sont disponibles.
C'est que sur Hulu,
ouais.
Parce que j'ai un message ici de quelqu'un qui le trouve pas sur Netflix.
Non, non, c'est pas sur Netflix. Je crois qu'il y a une version alternative à celle-ci que j'ai vue sur Hulu.
Effectivement. Et donc, il faut avoir Hulu, quoi. Si on n'a pas Hulu, on ne peut pas regarder.
Il faut avoir Hulu ou il faut chercher ailleurs.
Tu ne recommandes rien en particulier.
Je ne recommande rien en particulier. Donc, voilà.
Et t'as parlé de 10% aussi
Non, c'est pas moi, c'est Laurence qui parle.
Et où est-ce qu'on regarde 10%?
Netflix. Ça s'appelle Call My Agent.
Call My Agent. Ouais. 10% est traduit Call My Agent.
Ouais. Ben ouais, parce que 10% c'est ce qu'ils prennent, je pense, sur les commissions d'accord. d'acteurs, j'imagine.
Donc voilà, Séverine qui envoie le message là. Call My Agent sur Netflix.
Ouais, ouais. C'est bien cool.
Ok, mais magnifique.
Ouais, dans cette série-là, il n'y a pas besoin de trop de se prendre la tête.
Parce qu'à la série de Sacchini, il faut se prendre la tête un peu.
Ouais, ouais, un peu. Ça me fait un peu peur, là, du coup, tu vois.
Très, très, très bien fait. La musique est en contraste. Alors, c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est justement les couleurs qui sont faites dans ce film avec voilà, l'insistance sur le rouge, le vert. Et vraiment, en fait, enfin pour moi, hein, c'est vraiment fait sur un système de contraste, par exemple, parce qu'ils font des connexions avec le Canada où la vie est comme ici, et donc la République de Gilead qui est complètement différente. Des contrastes au niveau du système de vie et la façon dont c'est filmé, c'est vraiment une personne qui a vécu dans... Oh, on doit finir dans pas longtemps, dans 3 minutes, c'est ça ?
Oui, moi, je trouve que tout va bien. Tu as le temps de terminer.
3 minutes et demie. Et donc, voilà, c'est vraiment au niveau des contrastes. Je trouve que c'est vraiment très, très, très bien fait. Voilà, les images, la bande-son est vraiment très, très bien. Et au niveau des dialogues, voilà, très, très intéressant. Enfin, vraiment, pour moi, c'est la meilleure série que j'ai regardée depuis quelques années.
Et c'est... Hulu est mieux pour les séries ou... que si t'as Hulu, j'imagine que t'as pas Netflix. Qu'est-ce qui t'a fait prendre Hulu, alors?
Non, j'ai pas Hulu.
Ah, t'as pas Hulu? Comment tu l'as regardé, alors?
Mais je
elle veut pas donner ses sources.
Non, mais tu peux regarder par un canal parallèle.
Non, pas nécessairement par un canal parallèle. Il suffit de trouver les gens qui l'ont enregistré, par exemple.
D'accord.
Comme Virginie.
Tu l'as enregistré?
Non, je l'ai pas enregistré.
Ah bon. Sinon, on aurait pu le mettre sur le site web de Musical. Hein. Non, je rigole. Ok, petite.
Et sinon, lisez le livre. Oui, c'est alors, moi, j'avais dit pas lu, et puis c'est trop tard. Maintenant que j'ai vu la série, j'imagine que je vais faire des connexions. Mais en tout cas, voilà. Okay. Soit lisez le livre, soit.
Ben, on va dire au revoir et mettre une dernière petite musique. Donc,
merci.
Au revoir, Laurence et Madeleine, pour toute la discussion sur la natation synchronisée, pardon. Au revoir, Anatole, qui n'a pas dit grand chose.
Au revoir.
Notre dictionnaire.
Au revoir, Caroline.
Gaga,
voilà. Au revoir, Virginie, pour.
Merci, voilà. Bonne soirée à tous.
Au revoir,
et
Victor,
on se retrouve la semaine prochaine.
Voilà, et la dernière musique, ça va être jour 1 de Louane. On va pas en entendre comme petit bout, mais à la semaine prochaine.
Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême, dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. 9 jours, la vie c'est du velours. Et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice. Que voudrais-tu faire? Une balade.